Alexandre Moranville-Ouellet.
Cube Radio.
Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet.
Mardi 28 juin, bienvenue à Cube Radio. Il fait beau, il fait chaud dehors. Ça fait du bien de ne pas être sous la pluie encore une fois. Grosse journée d'actualité ici aujourd'hui là à Cube. Je le disais tout à l'heure à ma collègue Yasmine, on va suivre aujourd'hui la condamnation de Ghislaine Maxwell qui devrait là survenir plutôt sa sentence. On devrait savoir. On demande 30 ans de prison. Le maximum, c'est 55 ans. On se rappellera qu'elle a été le complice de trafic sexuel sur mineurs, reconnue coupable fin 2021. Elle est au centre de toute cette histoire avec Jeffrey Epstein. Le trafic de mineurs au début qui venait faire des massages à M. Epstein, ça s'est rapidement transformé en service et en sévice sexuel. Donc, on va attendre de voir là aujourd'hui quelle sera sa sentence. Une autre sentence aujourd'hui assez spéciale qui a été prononcée à 101. Un ex-criminel de guerre nazi, pardonnez-moi, qui a œuvré dans un camp de concentration allemand, Joseph Schutz, qui a été condamné à 5 ans de prison, une peine qui est extrêmement sévère pour complicité de crimes de guerre comme cela. Évidemment, à son âge, à 101 ans, il ne fera probablement pas de prison, mais c'est très symbolique qu'on continue de condamner des criminels de guerre nazi comme cela. Il en reste de moins en moins, évidemment, plus le temps passe, mais c'est quand même un symbole fort qu'on fait là-bas en Allemagne. Également toujours en Europe et toujours malheureusement sur la thématique des crimes de guerre. Il y a eu hier une frappe de missile russe qui s'est abattue sur un centre commercial en Ukraine. Centre commercial qui était bondé. On dit qu'il y avait près d'un millier de personnes qui étaient là à l'intérieur dans la ville de Kremenchuk. C'est une ville qui a été épargnée jusqu'ici là, par les bombardements qui ne représentent pas nécessairement un objectif stratégique et on a frappé tout de même avec un missile et il y aurait là au moins 16 personnes de tuées. Au-dessus d'une cinquantaine de blessés pour l'instant. Et à chaque jour, il arrive des atrocités comme ça qui sont commises en Ukraine. Et c'est difficile de continuer à garder une veille, une vigie sur tout ce qui se passe. Heureusement, on a très souvent avec nous et dans les médias québécois, Tetiana Ogarkova, qui est la responsable du département international de l'ONG Ukraine Crisis Media Center. Elle est avec nous ce matin. Bonjour, Madame Ogarkova.
Bonjour.
Alors, rapidement, là, pour situer nos auditeurs, là, Madame Ogarkova, Kremenchuk, là, dans le centre de l'Ukraine, c'est quel genre de ville exactement? Là? C'est pas un objectif stratégique, une cible militaire, c'est purement civil comme endroit.
La ville de Kremenchuk, c'est une ville de taille moyenne qui est située dans la région de Poltava. Donc, c'est le centre même de l'Ukraine, assez éloigné, je dirais, de la ligne de front à l'est, mais aussi au sud. La ville a été déjà cible de frappes par missile, mais notamment et précisément l'usine du raffinement de pétrole. Mmh. Donc, une usine assez grande d'une importance stratégique. Donc, il y avait quelques frappes qui ont malheureusement complètement détruit en fait cette usine, ce qui se traduit ensuite par le déficit en fait de l'essence partout dans le pays. Bien sûr que d'autres objectifs d'autres entreprises de ce type ont été aussi touchés dans d'autres coins de l'Ukraine. Mais ce qui est inédit en fait dans la frappe d'hier, c'est que c'était une frappe qui était délibérée en fait contre un centre commercial qui est par définition une infrastructure civile. Le côté russe a déjà commencé en fait les mensonges les plus rudes possibles en disant qu'il y avait un stock des armements occidentaux, mais bien sûr c'est un mensonge puisque c'était un centre commercial qui fonctionnait, il n'était pas fermé pour les travaux ni rien du tout. Il y avait des civils qui étaient à l'intérieur, comme vous pouvez imaginer, dans n'importe quel autre centre commercial partout dans le monde. Ça ressemble à un centre commercial normal. Le nombre de victimes déjà identifiées s'élève à 20 personnes, une cinquantaine de blessés, dont à peu près la moitié hospitalisés suite à des blessures graves, et 30 6 personnes qui sont portées disparues, c'est-à-dire que les familles pensent que leurs membres de famille pouvaient être à ce moment-là dans le centre commercial et qui n'est pas de retour à la maison. Il y avait un incendie immense, donc beaucoup de choses ont brûlé. Donc, là, c'est-à-dire que l'immeuble est complètement détruit. Donc, dans les décombres, il y a des sauveteurs qui sont toujours en travail. Et ensuite, il y a des corps découvert, mais pour les identifier, il faudra du temps parce qu'il faudra passer par des analyses de l'ADN. Donc, l'édifice est complètement détruit. Donc, après que le feu était là, c'est extrêmement difficile d'établir les chiffres exacts de victimes.
Ouais. Est-ce que c'est une coïncidence, selon vous, là, que cette frappe qui, comme vous le dites, a frappé une cible civile qui est loin de la ligne de front, semble pas avoir un objectif stratégique. Est-ce que c'est une coïncidence que ça ait lieu en plein, au même moment exactement où a lieu en ce moment la rencontre des pays membres du G7? Est-ce que c'est un message, un acte de défiance, de provocation, selon vous, du Kremlin?
Ici, on fait beaucoup le lien entre ces deux événements, même si la rencontre de G7 est géographiquement très éloignée. Et la tragédie, en fait, de la population ukrainienne, c'est que, en voulant frapper G7, il frappe, malheureusement, les habitants de la ville d'une taille moyenne au centre de l'Ukraine. Donc, bien sûr que ça a un lien avec ça, mais aussi, donc, on voit cette solidarité de G7 se serrer autour de l'Ukraine. On se file mais en même temps, on reçoit des coups, des réponses de la Russie qui veut démontrer que ce réseau de solidarité qui se sert autour de l'Ukraine, il doit céder, donc ils vont continuer leur acte de terreur. Et donc, il y a le sommet de l'OTAN qui s'ouvre demain. Donc, on se prépare, nous, déjà, puisqu'on sait qu'on ne pourra pas éviter d'autres frappes et on prend beaucoup, un peu plus au sérieux les alertes aériennes partout sur le territoire de l'Ukraine. Depuis 5 jours, en fait, il y a des frappes partout. Donc, c'est consécutif. Et on revient au rythme de 50 missiles lancés sur l'Ukraine à une seule journée. C'est presque le rythme du début de la guerre. Peut-être un peu moins si on compare les premiers jours où il y avait une centaine de missiles qui tombaient sur notre territoire, si je parle de jours de février. Au mois de mars, c'est à peu près le rythme de mois de mars, c'est-à-dire les combats intenses, mais les combats se concentrent par contre à l'est seulement, un peu au sud, mais là par contre l'armée ukrainienne plutôt contre-attaque. Mais voilà, ce terrorisme par missile, il continue, et ce sont bien sûr des gestes de démonstration que éloignez-vous de l'Ukraine, nous on peut faire ici ce que vous voulez, on peut tuer des civils, et qu'est-ce que vous pouvez nous faire? Ouais. C'est un peu ça, en clair, le message de la Russie.
La communication, les stratégies de communication à date du peuple ukrainien, du gouvernement, de votre côté aussi, Mme Ogarkova, là, on vous a reçu, nous ici à Cube Radio, là, très souvent depuis le début du conflit. Vous faites le tour des médias un peu partout, ici au Québec, au Canada. Mais le conflit perdure, puis c'est difficile, j'ai l'impression, là, pour les gens en été, qui vivent ailleurs, de se replonger dans des nouvelles qui sont difficiles, même si c'est nécessaire, de voir ce qui se passe en Ukraine, d'en parler, de le rapporter. Vous qui faites ça jour après jour, dans tous les médias, est-ce que vous trouvez ça de plus en plus difficile de garder l'attention? Qu'est-ce que vous avez besoin de l'Occident, des alliés, de l'OTAN? Parce que ce réseau de solidarité-là, il est bien beau, mais de quoi avez-vous besoin concrètement pour qu'on continue de donner un support, un appui qui fait une différence avec l'Ukraine?
Oui, la situation est difficile puisque avec la guerre qui se prolonge comme ça, on se disait au début ça va durer peut-être les semaines, déjà ça dure des mois. On craint tout ce que ça peut durer aussi des années. Ouais. On a besoin de soutien militaire, on voit des choses qui sont faites, on a besoin de plus de soutien, mais il y a des problèmes que personne ne peut malheureusement décider aujourd'hui. C'est la question des armements, mais aussi la question des entraînements, puisque même avec tous les systèmes d'artillerie, même MLRS qu'on reçoit, il faut aussi apprendre à les manier. Ouais. Et l'ennemi est assez fort en termes d'artillerie. Il y a des choses qui se font et vont d'après ce qu'on ressent ici, dans la bonne direction, mais malheureusement, il faut prendre le côté de la réalité et de se dire que malheureusement, pour nous tous, en fait, ce combat il ne sera pas court. Malheureusement, il va durer. Il faut avoir du courage et de la patience aussi du côté ukrainien, mais du côté de nos partenaires occidentaux. Il faut tout simplement se dire que il n'y a malheureusement pas d'autre solution pour nous tous que de mener à une défaite militaire nécessaire de la Russie, puisque et donc il menait aussi à l'incapacité de l'agression pour les mois et les années qui suivent, puisque même si on arrive à repousser, ce qui peut paraître être extrêmement difficile aujourd'hui, mais repousser l'armée russe, que ça soit la ligne de 23 février, que ça soit de libérer Donbass et Crimée, il faut aussi s'assurer que cette guerre va pas s'éterniser. Donc il faut combiner en fait l'approche politique, ça c'est très clair. Donc les sanctions, c'est très bien, mais il faut persévérer. Donc isolation économique, pression, isolation diplomatique, plusieurs choses ont été déjà faites, mais il faut persévérer. Et bien sûr, le soutien militaire à l'Ukraine. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, demande aux partenaires de fournir, de fermer le ciel. Ceci, en fait, était demandé dès les premiers jours de la guerre.
Ouais,
aujourd'hui, ça devient un peu plus... Oui, mais ça devient une perspective un peu plus réaliste parce qu'on entend parler en fait des décisions faites dans son sens, puisque c'est vrai qu'on pourra pas, un pays pourra pas tenir côté économique si la Russie continue à envoyer des missiles sur toute industrie qui est là, il y aura plus de vie. S'il y a pas de vie, il y aura pas d'économie, il y aura pas de ressources. Donc c'est une bataille longue et compliquée. Il faut tout simplement garder le moral et se dire que ensemble, donc si on prend l'Ukraine et tout le réseau qui est autour de l'Ukraine et qui soutient, si chacun apporte sa part, on est fort, suffisamment fort. Il faut avoir cette confiance. En fait, on est suffisamment fort pour arrêter la Russie. Il faut tout simplement rien lâcher et avoir cet objectif dans la tête qui consiste à rétablir la justice. On n'attaque pas la Russie, personne n'attaque la Russie, mais il faut justement rétablir la justice.
Cette guerre. Ouais. La justice, elle est faite parce qu'il y a des mensonges du Kremlin. Vous le dites, là, déjà, ça s'active. On dit que ce n'est pas une... Soit il y avait des armes de cachet. J'ai vu une narrative qui disait que non, la Russie n'avait pas frappé ce centre commercial-là, que c'est encore un coup, ce qu'on appelle un false flag operation, une opération de faux drapeau, comme quoi les Ukrainiens auraient eux-mêmes attaqué le centre commercial. Il y a des mensonges, je vous le dis. La justice doit être établie, la vérité aussi.
Oui.
Oui.
Oui, tout à fait. La vérité et voilà et puis la punition, si vous voulez, de la Russie, parce qu'il faut changer radicalement. Historiquement, il n'y a pas d'autre solution.
Non, vous le dites bien. Puis vous entendre Madame Ogarkova là d'une fois à l'autre, vous dites il faut tout simplement avoir le courage, tout simplement. Ça me semble si peu simple pourtant, mais de la manière dont vous le dites, il va falloir des deux choses que vous avez nommées pour le peuple ukrainien encore, de la patience et du courage. De la patience, du courage, mais aussi de l'aide occidentale. Il faut qu'elle continue à arriver. Surtout, il ne faut surtout pas se désensibiliser parce que des bombardements comme ça au centre commercial, malheureusement, si le conflit perdure, il va y en avoir d'autres. Il y en a eu avant, il va y en avoir après. Il ne faut pas se désensibiliser puis prendre ça pour une frappe parmi d'autres. À chaque fois, c'est une tragédie. Puis chaque tragédie est une tragédie de trop. Madame Ogarkova, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se reparlera assurément. Et surtout, merci du travail que vous faites de sensibilisation auprès des alliés.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Au revoir.